Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70. Nathalie Hamard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. Merci de votre fidélité à l'écoute. Ce matin, on attend vos témoignages sur les préparatifs de la Tabaski. La fête débute demain soir, elle s'échelonnera selon les pays jusqu'à lundi prochain. Moment de prière pour les musulmans, moment de réunion familiale aussi autour du rituel, du sacrifice du mouton. Et pour beaucoup, ça sera une pause bienvenue en cette année de pandémie où les mosquées ont parfois été fermées, où les consignes sanitaires ont empêché de se retrouver nombreux autour d'une table. Alors comment vous préparez vous à la Tabaski? Allez-vous justement préférer une fête en petit comité? Aurez-vous le souci de respecter les gestes barrières? Vous nous appelez, vous nous racontez vos préparatifs, 33 9 693 693 70 et bien sûr WhatsApp et la page Facebook de l'émission. D'abord, comme chaque matin, vos questions à la rédaction. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous écoutez en France, à Poitiers. Et vous avez une question concernant la Côte d'Ivoire. Alors que le conseil politique du RHDP se réunit cet après-midi pour choisir son candidat à la présidentielle du 31 octobre, réunion en présence d'Alassane Ouattara. Arsène, on vous écoute.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et je vous remercie de me donner la parole. Depuis la mort du candidat désigné le 8 juillet dernier, il s'agit bien entendu de Amadou Gon Coulibaly, les membres du parti au pouvoir multiplient les appels au président Ouattara pour qu'il soit le candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, lors du vote de la nouvelle constitution en 2016, il était dit que le président de la République ne pourrait pas briguer de troisième mandat. Ma première question est la suivante. Que dit exactement la constitution ivoirienne sur le mandat présidentiel? Et Alassane Ouattara peut-il se représenter?
Alors Arsène, merci pour votre question. Et pour vous répondre, en studio à mes côtés, Jeanne Richard du service Afrique d'RFI. Bonjour Jeanne.
Bonjour, bonjour Arsène.
Le président ivoirien a-t-il le droit de se représenter à un troisième mandat?
Alors selon l'article 55 de la constitution ivoirienne, le nombre de mandats est toujours limité à deux. Il est écrit, je cite, que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Alassane Ouattara a déjà réalisé 2 mandats, mais pour ses supporters, le fait d'avoir adopté une nouvelle constitution en 2016 et d'être passé à la Troisième République remet les compteurs à zéro. Il aurait donc théoriquement le droit de se représenter une fois. Mais alors pour ses opposants et certains juristes, ça va pas de soi. En effet, l'article 183 de cette constitution stipule que la loi en vigueur avant la révision de la constitution reste applicable. Donc cela voudrait dire qu'Alassane Ouattara a déjà fait ses 2 mandats et ne peut plus en briguer un troisième. Et même, comme le disait Arsène, certains lieutenants du RHDP, des ministres d'Alassane Ouattara, affirmaient en 2016 que jamais Alassane Ouattara ne pourrait se représenter à cause de cet article 183. Mais maintenant, en politique, on peut changer d'avis. Le débat va donc s'ouvrir si le président est effectivement désigné candidat de son parti. Et l'analyste politique Sylvain Guessant, qui dirige l'Institut de stratégie d'Abidjan, rappelé sur RFI qu'en Côte d'Ivoire, près de la moitié des membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, on pourrait légitimement se demander s'ils auront la capacité à prendre le recul nécessaire pour traiter pareil dossier.
Et quelle est votre deuxième question, Arsène, pour Jeanne Richard?
La deuxième question est la suivante. Est-ce que le RHDP cherche un autre candidat que Alassane Ouattara? Et comment les Ivoiriens accueillent-ils une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara?
Alors en fait, très vite, après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, c'est le nom d'Alassane Ouattara qui s'est imposé. Car dans son parti, beaucoup de cadres espéraient pouvoir être choisis, mais personne ne fait l'unanimité. Alors pour éviter que des factions se créent, pour éviter que des déçus quittent sa formation politique, comme ça avait d'ailleurs déjà été le cas lorsque Amadou Gon Coulibaly a été désigné comme dauphin, Alassane Ouattara estime qu'il doit se représenter.
Comment cela est-il perçu, Jeanne, par la population en Côte d'Ivoire?
Alors, en dehors des militants politiques, évidemment, il y a au sein de la population un certain ras-le-bol de voir les mêmes têtes depuis des dizaines d'années. Alassane Ouattara, 78 ans, Henri Conan Bédier, 86 ans, et aussi Laurent Gbagbo, 75 ans, qui lui n'est pas candidat, mais qu'il reste quand même irremplaçable au sein de son parti. La majorité de la population est jeune et beaucoup ne se retrouvent pas dans ces figures politiques âgées, même s'il y a aussi un certain fatalisme.
Arsène, je crois que vous aviez une toute dernière question pour Jeanne Richard, allez-y.
Oui, tout à fait, vous avez déjà posé la dernière question en partie, mais je voudrais savoir, est-ce que alors on pourrait donc craindre des problèmes à l'issue de ce scrutin au regard de tout ce qui précède là.
Et la question aussi, Jeanne, de la réaction de l'opposition.
Oui, parce que l'opposition critique évidemment cette possible candidature. Elle pointe déjà le fait qu'Alassane Ouattara avait déclaré qu'il se représenterait pas, et donc qu'il ne tient pas parole s'il se représente. La question de la constitutionnalité aussi est avancée. L'opposition juge qu'une telle candidature n'est pas légale, comme on le disait tout à l'heure. Elle critique aussi beaucoup la CEI, la commission électorale qui est chargée d'organiser ce scrutin. Elle l'accuse d'être aux ordres du pouvoir et récemment, une décision de la Cour africaine des droits de l'homme lui donne en partie raison. Et donc l'opposition continue de réclamer une réforme de cette CEI. Plusieurs analystes politiques que j'ai pu consulter estiment donc que pour tout cela, en effet, il y a un risque de tension.
Merci Jeanne Richard et merci à vous aussi Arsène. On suivra évidemment cette réunion du Conseil politique du RHDP cet après-midi à Abidjan dans nos prochaines éditions. Et on salue Tanguy qui nous appelle de Libreville. Bonjour Tanguy. Tanguy, m'entendez-vous ?
Oui, allô ?
Oui, Tanguy, vous êtes en direct avec nous dans Appel sur l'actualité. Votre question concerne l'Afrique du Sud.
Exactement. Bonjour à tous. J'ai entendu qu'André Mangini était mort. C'était un des compagnons de lutte de Nelson Mandela avec qui il avait été emprisonné. Quel était son parcours militant aux côtés de Nelson Mandela ? A-t-il lui aussi fait une carrière politique ?
Alors, il venait effectivement de fêter ses 95 ans. Hein. L'Afrique du Sud pleure depuis la semaine dernière la mort d'Andrew Mlangeni. Funérailles prévues d'ailleurs tout à l'heure à Johannesburg. Bonjour Claire Bargelès.
Bonjour Nathalie et bonjour Tanguy.
Vous êtes notre correspondante en Afrique du Sud. Claire, avec cette disparition, c'est vraiment la fin de toute une génération de militants anti-apartheid.
Oui, Andrew Mlangeni était en effet le dernier survivant du fameux procès de Rivonia. En 1963, les autorités de l'apartheid font irruption dans une ferme dans cette banlieue de Johannesburg. Et il s'agissait en fait d'un repère clandestin du Congrès national africain, l'ANC. Alors Andrew Mlangeni ne se trouvait pas dans la ferme à ce moment-là puisqu'il avait déjà été arrêté un mois plus tôt. Il était à l'époque chargé de repérer de futurs recrues pour la branche armée du parti et il venait juste de rentrer de Chine où il avait été envoyé pour suivre un entraînement militaire. Son dossier est ajouté au procès de Rivonia et il se retrouve donc sur le banc des accusés aux côtés de Govan Mbeki, Walter Sisulu et bien sûr Nelson Mandela. Mlangeni est l'accusé numéro 10. Il est torturé par les policiers lors d'interrogatoires et il risque comme les autres la peine de mort. Ils seront finalement condamnés au bagne à vie pour trahison et sabotage et envoyés sur l'île de Robben Island. Andrew Mlangeni restera très proche de Nelson Mandela, celui qu'il appelle son frère, puisqu'il partage des cellules voisines. Le militant restera 26 ans en prison et utilisera ce temps derrière les barreaux pour étudier la politique et le droit, alors qu'il avait dû abandonner l'école assez jeune, faute de moyens. Finalement, libéré quelques mois avant Mandela, il sera par la suite assez discret, alors que son ancien voisin de cellule deviendra le premier président noir du pays. Andrew Mlangeni n'a pas totalement quitté la politique, puisqu'il est devenu député de l'ANC au Parlement à deux reprises. Mais il disait lui-même qu'il était plutôt un homme des coulisses, plus à l'aise dans le monde souterrain de la résistance que sur la scène publique.
Oui, 26 ans hein, quand même derrière les barreaux. Tanguy, vous aviez une deuxième question pour Claire Bargelès ?
Exactement. Comment l'Afrique du Sud a réagi à son décès ? Les générations qui n'ont pas connu l'apartheid connaissent-elles son histoire ?
C'est vrai que c'est une question importante, Claire. Comment est-ce que aujourd'hui l'Afrique du Sud de moins de 20 ans appréhende cette histoire, l'histoire de Mlangeni et celle des autres accusés de Rivonia ?
Alors, du côté du monde politique, évidemment, les hommages de ses compagnons de l'ANC se multiplient ces derniers jours pour souligner ses sacrifices pour la nation. Le parti le reconnaît comme l'un de ses combattants les plus remarquables pour qui la liberté du peuple était plus importante que sa propre vie. Et c'est aussi, on l'a dit, une page de l'histoire qui se tourne, comme l'a souligné le président Cyril Ramaphosa. Mlangeni a, selon lui, passé le relais à ses compatriotes pour construire l'Afrique du Sud pour laquelle il s'est battu. Pourtant, certaines déclarations lors de ces différentes cérémonies d'hommage n'auraient pas forcément plu aux militants, et notamment, je pense à la prise de parole de Jacob Zuma. Androum Langeni avait en effet dirigé la commission d'intégrité de l'ANC et a appelé à la démission de l'ancien président pour ses nombreuses affaires de corruption. Alors, on en parlait, les plus jeunes générations, elles voient le nom de ce militant comme un nom qui n'est pas totalement inconnu, mais beaucoup ignorent en fait son parcours et ses combats, car comme on le disait, il a été assez éclipsé par des figures plus médiatiques comme Mandela, Tambo ou Sisulu, et lui est resté un peu plus dans l'ombre pour ses générations. Donc Androum Langeni sera enterré tout à l'heure à Johannesburg après une série.
Ah, je crois qu'on vient perdre, la liaison avec Claire Bargelès, qui nous expliquait donc que les obsèques d'Androum Langeni avaient lieu tout à l'heure à Johannesburg. Cérémonie d'hommage en ce moment même, d'ailleurs, sur le campus de l'université de Soweto, en petit comité. Pandémie de coronavirus oblige. Merci Claire Bargelès et merci à vous Tanguy. Est-ce qu'on a répondu à vos interrogations?
Merci beaucoup, je suis très satisfait.
Merci à vous. Bonjour Molly.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes en ligne de Brazzaville, soyez le bienvenu. Vous avez une question qui concerne la Pologne.
Oui, en effet. La Pologne et la Turquie envisagent de se retirer de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Alors j'ai une série de questions à poser. La première est celle de savoir comment ce traité permet-il de protéger les femmes, et puis quelles seraient les conséquences d'un tel retrait?
Et pour nous éclairer ce matin, Damien Simonard, le correspondant d'RFI à Varsovie. Bonjour Damien.
Bonjour Nathalie, bonjour Molly.
Deux pays donc, Turquie et Pologne, où les pouvoirs réfléchissent, il n'y a pas encore de décision très claire, hein, à sortir de cette convention. En quoi donc consiste d'abord ce traité, Damien ?
Eh bien, quand on parle de la violence faite aux femmes, on pense tout de suite à la violence physique, conjugale, mais il y a toutes sortes d'autres violences. Violences économiques, sexuelles, discrimination, harcèlement, et la liste est longue. La Convention d'Istanbul résume toutes ces violences, et les pays qui y adhèrent à ce traité acceptent de les combattre. Alors, par quels moyens ? Par exemple, par l'aide aux victimes, en créant un cadre pour qu'elles puissent s'exprimer sans crainte, par l'éducation aussi, en enseignant aux élèves l'égalité entre les hommes et les femmes, et dans un pays très conservateur, catholique comme la Pologne, le modèle de l'homme qui travaille et de la mère au foyer est encore très courant. Alors en pratique, chaque pays signataire doit lui-même créer son système juridique pour lutter contre les violences, mais la Convention d'Istanbul fait autorité, c'est-à-dire qu'un juge peut par exemple se référer à ce traité pour rendre un jugement qui ne serait pas nécessairement du goût des autorités. Et enfin, il y a 15 experts indépendants de différentes nationalités qui ont pour mission de vérifier si les pays signataires respectent la Convention d'Istanbul, donc cela ne peut pas être un engagement fictif.
Donc une convention utile, hein, si on parle effectivement de protection des droits des femmes. Pourquoi la Pologne veut-elle se retirer de ce traité précisément maintenant ?
Eh bien, Nathalie, celui qui a allumé la mèche, c'est le ministre de la Justice polonais, Zbigniew Ziobro. Officiellement, il déclare que la Convention d'Istanbul a une partie cachée, à savoir la partie idéologique, qui, selon ses propres termes, est nuisible. Par exemple, la Convention ne parle pas seulement du sexe biologique de la femme, mais aussi du sexe culturel, sociétal. Le pouvoir conservateur polonais interprète cela comme étant les personnes transsexuelles, et cela lui pose problème car pour des questions religieuses, la Pologne affirme qu'une femme ne peut être définie autrement que par son sexe biologique. Par ailleurs, le parti PiS de Jarosław Kaczyński est en guerre depuis son arrivée au pouvoir contre l'enseignement de la théorie du genre et de manière plus générale contre ce qu'il appelle l'idéologie LGBT. Les autres raisons sont strictement politiques. Le PiS est un parti ultranationaliste qui applique depuis 5 ans la doctrine « la Pologne aux Polonais », donc il n'est pas question que l'Union européenne lui dicte quoi que ce soit sur des sujets de société. Et enfin, la dernière raison officieuse, c'est que le ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, craindrait de perdre son poste lors du prochain remaniement ministériel, et il chercherait à créer une polémique pour montrer son importance au sein de la coalition au pouvoir.
Alors on a une autre question de Molly pour vous, Damien Simonard. Molly, on vous écoute.
Alors, cependant, des manifestations ont lieu pour dénoncer la volonté des autorités. J'aimerais savoir quel est le point de vue des Polonais éventuellement sur ce retrait de leur pays.
Damien ?
Effectivement, oui, effectivement, Molly, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue, mais cela reste un pourcentage faible pour un pays de 38 millions d'habitants. Une fois de plus, la Pologne semble coupée en deux entre d'un côté les conservateurs nationalistes et de l'autre les libéraux pro-européens. ceux qui sont pour un retrait, ou du moins qui ne sont pas contre, font valoir l'argument que la loi polonaise applique déjà la Convention d'Istanbul sans même qu'il y ait eu besoin de la signer. Ceux qui s'y opposent, en revanche, estiment que se retirer de ce traité, c'est envoyer un message à tous les auteurs de violences contre les femmes qu'ils ont le feu vert de l'État. Une chose est sûre, tout le monde s'accorde unanimement sur le fait qu'il faut condamner fermement les auteurs de violences et protéger les femmes. Enfin, un dernier point qui a son importance, la porte-parole du parti PiS a déclaré dimanche qu'aucune décision n'a encore été prise concernant le retrait de la Pologne de la Convention d'Istanbul. La proposition du ministre de la Justice va être prochainement analysée.
Merci Damien Simonard en direct avec nous de Varsovie, correspondant d'RFI en Pologne. Et merci à Molly de nous avoir appelé. Fadel, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Libreville, on va refermer cette première partie d'appel sur l'actualité avec vous et avec une question qui va intéresser tous les fans de foot, plus particulièrement ceux du PSG et de Kylian Mbappé. Thomas de Saint-Léger du service des sports est là pour vous répondre. Bonjour Thomas.
Bonjour Nathalie et bonjour Fadel.
Fadel, c'est à vous.
Vendredi dernier, lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Étienne, l'attaquant Kylian Mbappé a été victime d'un tacle violent, causant ainsi une entorse à la cheville. L'équipe était inquiète, mais la blessure semble moins atteinte. Qu'est-ce que le pronostic des médecins? Pourra-t-il jouer en Ligue des Champions?
Grave question, Thomas de Saint-Léger. Est-ce que vous avez la réponse? C'est pas sûr, hein?
Non, c'est vrai que au vu
même
des...
même les médecins ne l'ont pas.
Oui, c'est vrai qu'au vu des premières images, la cheville de Kylian Mbappé pris en tenaille entre les crampons du Stéphanois Loïc Perrin, ça ne sentait pas bon, pas bon du tout, même quand on a vu le petit prodige français retenir des larmes à sa sortie du terrain. Finalement, il y a quand même un bilan médical du club qui est tombé avant-hier, entorse de la cheville droite avec lésion ligamentaire externe, délai de reprise environ 3 semaines entre ce communiqué et le quart de finale contre l'Atalanta. Il y a 16 jours, 19 jours si on prend comme point de départ. Le match contre Saint-Etienne, dans les deux cas, pas besoin de faire Saint-Cyr pour comprendre que c'est très compromis. Même si, Nathalie, Kylian Mbappé, selon des informations de nos confrères du Parisien, multiplie les soins pour être sur pied le 12 août. Il y croit, le club aussi. En interne, on parle de qualité de récupération au-dessus de la moyenne qui pourrait lui permettre de gagner quelques précieux jours. Mais attention Nathalie, hein, la Ligue des Champions, c'est pas le monde des bisounours. L'intensité, les contacts sont un cran au-dessus de ce qui se fait en France, et précipiter le retour au terrain, c'est aussi prendre le risque d'aggraver la blessure avec pour conséquence une nouvelle indisponibilité potentiellement encore plus longue. Or si le PSG bat l'Atalanta le 12 août, il faudra ensuite enchaîner avec une demi-finale 6 jours plus tard et une éventuelle finale le 23 août. Pour ces deux rencontres éventuelles, donc, la présence d'un Kylian Mbappé en forme serait plus qu'indispensable pour le PSG.
Donc c'est pas encore gagné hein, pour la Ligue des Champions du côté de Kylian Mbappé. Autre question de Fadel pour vous, justement.
Oui Thomas, comment le PSG prépare-t-il son effectif et sa stratégie à une éventuelle absence de Mbappé face à Bergame?
Alors, j'aimerais bien être la petite souris qui se glisse dans les fiches de Thomas Tuchel, mais je suis un peu trop gros, hein. Désolé Fadel. Je connais pas la stratégie que compte mettre en place le technicien allemand et son staff. Si Mbappé, bien sûr, doit déclarer forfait, 2 choses sont sûres quand même. 1, l'alternative Cavani n'est plus d'actualité depuis le départ officiel du buteur uruguayen le 30 juin dernier. 2, il faudra en plus remplacer André Di Maria, suspendu pour cette rencontre. C'est pas facile, mais Tuchel dispose quand même d'autres atouts dans sa manche. Pablo Sarabia, l'Espagnol, qui déçoit rarement quand on fait appel à lui, ou Eric Choupo-Moting, le Camerounais, assez irrégulier, peut-être un peu léger pour la Ligue des Champions, mais aussi parfois précieux. 2 options poste pour poste, donc. Il en existe une 3e, celle du changement de système. Enlever un attaquant pour renforcer le milieu de terrain. On devrait en savoir plus dès vendredi. Et la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon, ce sera le dernier match du PSG avant ce grand rendez-vous contre l'Atalanta Bergame.
Et on suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention. Merci Thomas de Saint-Léger et merci à Fadel de nous avoir appelé. Vous restez avec nous dans 10 minutes. Appel sur l'actualité, 2e partie et vos témoignages sur les préparatifs de la Tabaski. Comment se présente la fête en cette année de pandémie de Covid-19? Vous nous appelez, on vous attend. Ce sera tout de suite après le journal.